France Inter.
Nantes, jeudi 19 décembre. Ceci n'est pas un plan social, c'est une condamnation.
Le visage d'une femme.
RIP culture, RIP égalité femmes-hommes, RIP ESS économie sociale et solidaire, RIP sport.
Je reviens.
Alors c'est le vote du budget prévisionnel de la région Pays de la Loire qui est en train de se dérouler aujourd'hui et demain.
Décapités, qu'on leur coupe la tête. C'est la présidente de région là sur une affiche devant l'hôtel de région. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude. Albert Camus. Il y a une parade mortuaire sur le camion du Royal de Luxe.
Quai d'échappe. Effectivement, c'est le truc du Royal, mais c'est quai d'échappe, je crois, qui a prévu le camion.
Une vingtaine de comédiens qui tourneront condamnés à mort.
Salus ad mortem, sportus ad mortem, cultura ad mortem, adolescens ad mortem.
Voilà, allez, c'est parti. Exécution de la mission locale aux chiottes. Les jeunes.
Festivalum ad mortem. Planinga familia ad mortem. Assignment locorum. Ça c'est plus compliqué, mais ad mortem. Education ad mortem. Solidarietatis ad mortem. Equalitas feminae masculum ad mortem. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Donc nous avons Tristesse morte en scène.
L'impératrice. Christus, mort sin scaena.
Voilà, que dire de plus, bah.
Bien.
Et en tout cas, tout ça, c'est grâce à nous quand même. Hein. Tous ces spectacles qu'on a aujourd'hui, le petit cheval, la chorale de Noël. Non, mais
tout
c'est vrai, tout ça, c'est grâce à Christelle.
Voilà.
Gratos.
Ah bah oui. Alors là, avant qu'il soit payé, tous ces.
Je voulais juste vous dire comment on sait, c'est pas mon métier. Un métier, j'en ai un vrai et je tiens à le garder. Merci de votre soutien. Et moi, un ministère de la culture comme celui-là, aucune hésitation.
Bonjour et bienvenue, c'est Contrevent, l'émission de reportage de France Inter qui vous emmène tout l'été sur les chemins de traverse et de résistance. Cette semaine, c'est la culture en résistance. Après l'annonce sidérante donc de la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais, qui en décembre dernier a littéralement dézingué le budget régional de la culture sous couvert d'austérité. Et ce n'est pas que la culture qui trinque, le secteur social est aussi dans le viseur. Planning familial, maison de santé, mission locale, association de lutte contre les violences faites aux femmes, club de sport, c'est une hécatombe sociale et culturelle. Alors aujourd'hui, on va voir comment les acteurs de la culture, notamment, mais tout ça c'est lié, réagissent et se mettent en résistance pour dénoncer cette mise au ban et essayer de survivre à l'offensive. Avec Élie Comins, directeur du lieu unique à Nantes, Gaëlle Lecareux, directrice du Théâtre Onyx à Saint-Herblain, Nadège Prunière, directrice des ateliers Frappas à Villeurbanne et le collectif Riposte Culture qui interpelle directement le ministère. Mais tout d'abord, on retourne au cœur de la déflagration, à Nantes, devant l'hôtel de région, le jour du vote de la cure budgétaire imposée par Christelle Morançais, qui s'est ralliée à Édouard Philippe après avoir été proche de Bruno Retailleau, lui-même ex-président de la région. Et en ce jeudi 18 décembre, Christelle Morançais s'apprête, bravache, à faire voter son budget dévastateur et, par la même occasion, ouvrir le bal d'un culture bashing qui n'a rien à envier au désastre trumpiste et milléiste d'outre-Atlantique. Les milliers d'intermittents du spectacle, d'acteurs de la culture et d'intervenants sociaux présents devant l'hôtel de région sont sidérés, dépités, mais prêts à en découdre.
France Inter. Contre vent. Antoine Chao.
Là, on est rassemblés parce qu'il y a une décision sur ce budget qui est une grosse coupe de la commission 7 qui rassemble tout ce qui est sport, culture, solidarité, égalité hommes-femmes.
L'émission locale,
toutes les actions de solidarité, donc avec tous les organismes aussi présents sur toute la région. Et donc il y a une grosse coupe de ces budgets qui varie selon les domaines entre 70 et 90% du budget qui saute. Et on a bien compris que la région cherchait à faire des économies, mais des économies aussi costauds et sans aucune concertation, ça a été très mal vécu. Et donc, ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de prendre contact avec nos élus.
Et de demander le report du vote, surtout.
Et de demander le report du vote et d'avoir une analyse, justement, de ces choix économiques qui deviennent pour nous plus des choix idéologiques. On ne peut pas se laisser faire comme ça, parce que sinon, ces choix-là, en fait, vont tellement impacter et notre quotidien et le quotidien de tous les concitoyens de la région, que c'est des conséquences qu'on va subir pendant des années qui vont arriver petit à petit. Et on ne peut pas laisser faire ça. Ce n'est pas possible. Et c'est notre quotidien. On n'est pas juste dans nos domaines. On n'est pas juste là pour être rentable. On est aussi vivant pour et pratiquer du sport et prendre soin les uns des autres et se cultiver. Voilà, on ne peut pas tout le temps être dans ce fonctionnement économique où Christelle Morancet souhaite nous mettre. Hein.
On n'est pas que Nantais, nous on est Sartois.
Oui, nous on est Sartois.
Il y a des Sartois, des Mayennais, ouais. Les cinq départements des Pays de la Loire sont là en fait. Ouais. Là, on a un collectif de citoyens qui s'appelle Convergence 72, qui regroupe la jeunesse, la culture, le sport, les missions locales, le planning familial, tout ce qui est solidarité. Voilà.
Voilà, ensemble on est plus forts et comme ensemble on est tous touchés, ben, on est là pour se défendre.
Donc moi, je suis Olivier Berland, je suis secrétaire général adjoint du SAMTAC CGT. C'est le syndicat du personnel technique permanent et d'accueil du spectacle vivant. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, bah, c'est le vote du budget de la région. Et donc le vote catastrophique et les coupes catastrophiques de la région, puisque c'est 73% de coupes budgétaires donc pour le spectacle vivant, mais pas que, pour le sport, pour la jeunesse. On s'attend, nous, à un plan social, mais comme jamais vu sur la région. Et surtout que ça fasse boule de neige ailleurs, puisque les départements qui suivent maintenant, qui rentrent dans la dynamique des coupes budgétaires, donc ça aussi, ça va faire mal. Et il faut savoir que nos lieux dépendent pour deux tiers de ces financements-là. On dépend tous des collectivités territoriales. Et donc sans collectivités territoriales, nous, le spectacle vivant ne pourra pas survivre. Et on voit bien le parti pris de Christelle Morancet. En tout cas, surenchérir sur déjà des coupes budgétaires qui sont monstrueuses. On lui demandait 40 millions, elle en propose 100. Là, il n'y a aucune logique, à part détruire quelque chose qu'elle ne veut plus voir sur son territoire.
Alors, la tronçonneuse, c'est efficace, non, pour la culture, pour la jeunesse?
Ouais, elle est bien aiguisée en plus.
C'est la nouvelle mode un peu Milei, c'est ça? C'est la mode argentine.
Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, on est carrément dans une espèce de capitalisme extrêmement violent, tu vois, on le sait. On est toujours surpris, mais bon.
France Inter. Contrevent. Antoine Chao.
Le lieu unique est internationalement reconnu par son esprit de curiosité dans les différents domaines de l'art. Art plastique, théâtre, danse, musique, littérature.
Chaque année, le lieu unique accueille plus de 40 spectacles, plusieurs expositions et de nombreuses conférences et projections.
Qui en font un lieu incontournable à Nantes. Quai Ferdinand Favre, 44 000 Nantes.
Les coupes annoncées vont avoir un effet direct dévastateur et un effet indirect tout aussi redoutable, puisque le secteur culturel, c'est un écosystème fragile et interdépendant. Nous faisons face à la perte de milliers d'emplois, à moins de création artistique, à moins d'accessibilité, à moins d'action de médiation. Et les structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire vont également être frappées de plein fouet par ces baisses. Alors moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut s'attaquer au club sportif? Pourquoi est-ce qu'il faut s'attaquer au planning familial? Pourquoi est-ce qu'il faut s'attaquer aux missions locales qui aident les jeunes à s'insérer? Pourquoi est-ce qu'il faut s'attaquer à SOS Inceste?
Le lendemain du rassemblement et après la validation par les élus de la région de la coupe drastique des subventions, sous prétexte de faire des économies, 80 millions, le double de ce qui était demandé à Christelle Morancet, ce qui va entraîner des baisses de subventions de plus de 60% pour la culture, de 76% pour le sport, etc., a lu le lieu unique, emblématique de la renaissance culturelle de Nantes. Face à la sidération du secteur social et culturel, le directeur Élie Comins a pris la parole après le spectacle du soir, ce qu'il ne fait jamais.
Tous ces acteurs de la société civile réalisent des missions d'intérêt général et ce sont ces missions qui se trouvent aujourd'hui en grand danger en Pays de la Loire. Ce danger est économique, il est aussi symbolique, car ici, en Pays de la Loire, les coupes budgétaires ont été accompagnées par un discours brutal qui cherche à diviser et à accuser. À bientôt, merci à vous et merci.
Alors, Élie, t'as pris la parole là, à la fin de ce spectacle skateboard, à lieu unique à Nantes. Quel enjeu pour un lieu comme le lieu unique à Nantes?
Pour beaucoup de lieux et pour beaucoup d'acteurs culturels, ce n'est pas 60, 70 ou 80%, c'est 100%. Dans la grande, grande majorité des cas, c'est 100%. 100% tout de suite en 2025. Parfois, il y a des aménagements, mais qui souvent servent en fait à licencier le personnel. Donc, c'est vraiment des coupes extrêmement drastiques. Concrètement, chez nous, ça va représenter au lieu unique environ 2000 heures d'intermittence, à peu près, qui vont être supprimées, a priori. Alors, on peut le compter de différentes manières. Il y a les effets directs de ce type-là. Et puis, il y a surtout les effets indirects, c'est-à-dire que comme l'ensemble de l'écosystème culturel est très interdépendant, c'est-à-dire que chaque production, chaque création est une co-construction qui rassemble en fait plein de financements différents qu'on appelle dans notre jargon des financements croisés, État, collectivités territoriales, mécènes, fonds propres, etc. Et ben, c'est tout l'édifice qui peut s'écrouler comme un château de cartes. Concrètement, moi, ce qui m'arrive en ce moment, c'est que j'ai des compagnies que j'avais prévu de programmer et qui viennent me voir et qui me disent bah, tel et tel élément qui était sur la fiche technique, qui était dans le spectacle, eh ben, on ne peut plus le faire. Est-ce que toi, tu peux prendre en charge ? Et c'est ça qui va se passer à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça va avoir une résonance très très forte, de manière à la fois directe et indirecte. C'est des effets extrêmement massifs, très clairement sur l'ensemble de la région. Concrètement, ça va vouloir dire moins de diversité culturelle, et je tiens à le dire parce que ça c'est vraiment directement le contraire de ce qu'annonce la présidente de la région des Pays de la Loire. C'est aussi moins de création qui est faite sur les territoires, et là aussi, c'est une contradiction flagrante de son discours, c'est que c'est... Si on enlève ces subventions, en fait, ce qui va circuler sur les territoires, ce sont des grosses productions massives, très chères, dont les billets sont très chers et qui surtout seront fabriqués ailleurs, plutôt à Paris ou plutôt même à l'étranger. Donc c'est vraiment une dépossession des territoires et c'est évidemment quelque chose qui va se faire au détriment de la création artistique et de la culture en général d'ailleurs. Donc c'est vraiment un acte qui est grave par sa dimension financière et aussi symboliquement, puisqu'il y a vraiment eu un discours de stigmatisation, un discours qui a pointé du doigt le secteur culturel et qui fait sans doute largement autant de dégâts que la baisse budgétaire elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment là l'idée de dire ben, « vous ne méritez pas ça, tout ce que vous faites finalement, ça ne sert à rien ». Ça a vraiment été pris de manière très 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 violente à cause de ces mots qui ont été utilisés et de la méthode qui a été employée. C'est une quarantaine d'années... de politique publique qui est remise en question de manière extrêmement brutale et unilatérale. Et là, on peut vraiment se poser la question de la bonne gouvernance. C'est vrai qu'ici à Nantes, il y a un très fort soutien historiquement pour le secteur culturel qui a énormément dynamisé la ville au moment précisément où un déclin industriel était largement en cours. Donc c'est très paradoxal d'une certaine manière. Et je trouve que l'exemple nantais montre à quel point la culture apporte à un territoire. Pour moi, le plus important, c'est la valeur culturelle par elle-même. On ne fait pas de la culture pour d'autres effets, mais il y en a plein. Et il y a notamment des effets économiques qui sont très importants sur le territoire. Il y a ce qu'on appelle les externalités, là aussi, dans notre jargon, mais c'est quelque chose qui pèse aussi. Donc voilà, là, le choix, c'était aussi un choix qui a été fait de, finalement, de sabrer des secteurs économiques qui relèvent aussi du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, des transports, etc., qui vont être touchés par ce qui se passe, là aussi indirectement. On sent que les Pays de la Loire sont peut-être un laboratoire en ce moment, et qui est très regardé, et qui pourrait donner lieu à d'autres collectivités qui pourraient suivre ce type de mouvement.
Saint-Herblain Onyx, le théâtre Onyx.
C'est un bâtiment qui fait 33 mètres par 33 mètres, 8000 mètres carrés sur 5 étages. C'est un cube noir au milieu de nulle part. Enfin, à l'origine, il était au milieu de nulle part. Maintenant, tout autour, il y a des magasins, des grands hangars en tôle. C'était le premier truc qu'ils ont posé ici. Ouais, les 86, je crois qu'ils ont démarré. L'ouverture 88. Bah, depuis, ça s'est peuplé, mais à l'origine, il n'y avait que nous. Alors, c'est Mirko Vitar qui a fait ça. C'était à l'époque, c'était le cabinet Jean Nouvel. Autant dire que c'est quelqu'un.
Pampan, c'est ton nom ?
Non, c'est mon surnom.
C'est ton surnom ?
Ouais, non. Sinon, c'est Pampan le Gitan. Je suis responsable du pôle technique ici. Donc ici, on est dans le hall. Voilà, donc après, il y a une grande salle qui fait 500 places, à peu près. Une grande salle de spectacle. Et puis, on a ce qu'on appelle en dessous un club, où là, c'est une plus petite salle, concert-spectacle. Là, on est 120. Un petit lieu, quoi. Un petit lieu un peu plus intimiste. Mais on fait pas la même chose, quoi. Voilà. Dans la grande salle, on peut aller voir, mais il y a ce qu'on appelle des perches contrebalancées. C'est un peu comme sur un bateau, en fait. Du coup, tu n'as pas de moteur, tu n'as pas d'électricité. Tu as juste un bonhomme avec ses bras qui manipule les perches pour faire les changements de projecteurs et tout ça.
Avec des gueuses et tout ça.
Ouais, avec des gueuses et tout, oui.
À l'ancienne.
Ouais, l'ancienne, carrément. Ouais, on a encore ça, quasiment comme dans un opéra.
Ouais.
Donc ça, c'est simple. C'est la mécanique hyper simple. Du coup, le théâtre, il est un peu simple aussi. La programmation, elle est un peu simple, comme nous, quoi. On est des gens simples. Nous, on fait ici, on fait du théâtre de rue, du cirque. On est conventionné de danse et cirque, mais on a une grosse couleur cirque, quand même. Moi, je suis arrivé là parce que le théâtre, il était un peu moins bourgeois qu'ailleurs, quoi, on va dire. C'est ça. Il y a majoritairement des Herblinois, évidemment, parce que c'est leur théâtre, hein, c'est le théâtre de la ville. Ça, c'est cool, d'ailleurs, que la ville ait encore un théâtre à elle, c'est elle qui fait avec ses mains. Moi, je suis employé de la ville, quoi. Employé municipal, tu vois, c'est...
Oui.
Et donc, donc, les gens qui viennent là, c'est vraiment... C'est monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est ça. C'est pas les gens du centre-ville qui sont l'opéra, c'est pas les mêmes, quoi. C'est ça.
Et le fait que ce soit un théâtre municipal, ça le protège un peu par rapport aux coupes budgétaires qui viennent d'être menées par la région, c'est ça ?
Alors nous, on a un peu moins nourri par Christelle, c'est vrai. On nous en prend un peu quand même, hein, donc on va souffrir, hein, comme les autres. Hein. Mais c'est vrai qu'on a un peu plus à l'abri, puisque c'est la ville qui finance. Mais c'est pas elle qui remet au pot. Hein. Quand Christelle en enlève, la mairie, elle peut pas tout remettre. Hein. Non, non. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Donc on est un peu plus à l'abri que les autres, c'est vrai. C'est ça. Au moins nos postes, au moins le bâtiment, il va continuer d'exister. Ce qui va souffrir, c'est les compagnies, les spectacles et les intermittents du spectacle, tous ceux qu'on embauche là. En fait, ce qu'elle nous pique là, Christelle, en fait, c'est ça que...
Christelle Morancet. Hein,
Morancet, ouais. Pardon. Ouais, oui, ouais. Non, mais c'est comme si j'étais... comme si j'étais familier. Et donc, Christelle Morancet et la région des Pays de la Loire, ce qui nous enlève, c'est le budget artistique, en fait. C'est le cœur de notre métier. Donc du coup, c'est bien bon, on va avoir un beau théâtre avec plein de gens dedans, mais qu'est-ce qu'on va y mettre ? Ça. Moi, je suis inquiet là-dessus. C'est ça. Et puis, ça va faire moins de boulot pour les compagnies, donc moins de création, moins de spectacles.
France Inter.
100 millions. Elle a annoncé 100 millions. Il y aura peut-être 85 cette année, mais 100 millions l'année prochaine.
Antoine Chao.
Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ça. Voilà.
Contre-vent.
Une case du service public, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça commence, il me semble.
Il est très beau, ce cube, parce qu'il est très atemporel, en fait. Et contrairement à tout ce qu'il y a autour de nous, parce que bon, quand vous regardez autour de nous, on a Decathlon, Ikea, Leclerc, enfin, on a tout. Hein. Et ben, Gaëlle Le Carreux, donc directrice du Théâtre Onyx, la ville de Saint-Herblain. Une ville qui est un peu morcelée, en fait. Il y a un quartier dans le long de la Loire, un quartier plutôt ouvrier, populaire, avec un peu le bassin ouvrier de tous ces travaux qui découlaient de la Loire. Voilà, il y a le quartier nord, avec ce grand immeuble qui est le Sillon de Bretagne, en fait. Voilà, donc un peu une utopie architecturale des années 70-80, enfin, voilà. Et au milieu de ça, il y a ce pôle commercial. Le centre géographique de la ville de Saint-Herblain, c'est ce grand pôle commercial. Voilà.
Alors Gaëlle, ici on est quand même sur un territoire de culture. Enfin, depuis une vingtaine d'années, il y a eu vraiment l'idée de miser sur la culture pour relancer l'activité à Nantes, à Saint-Herblain, ici en région, au Pays de Loire, quoi. Et aujourd'hui, c'est quand même assez incompréhensible, ce couperet qui vient de tomber.
Ben oui, oui, oui. On s'y attendait pas, en fait. Et effectivement, on est sur un territoire très attractif, dynamique. Bon, ben voilà, on a tous en tête le Royal de Luxe, les machines. Et puis, nous, à Saint-Herblain, en fait, on est beaucoup sur la création participative. Donc, c'est aussi là, très dynamique. On est une présence sur le territoire. On fait des actions culturelles, on fait de la médiation, en fait, on accompagne beaucoup d'artistes de la région, enfin, voilà. Et puis, ben, d'apprendre que du jour au lendemain, en fait, on a une baisse de 100% de la subvention. Ouais, c'est très idéologique, en fait, parce que les arguments sont quand même très particuliers. On entend parler d'assister, on entend parler de compétences non obligatoires, enfin c'est 73% quand même au niveau culture. Je crois que c'est 75% au niveau du sport et je crois 90% pour tout ce qui est égalité, hommes-femmes. On parle même plus des plannings familiaux, tout le tissu associatif, de l'économie solidaire. Enfin, voilà, tout ça c'est mis à mal, en fait. L'économie sociale et solidaire, en fait, dans la région des Pays de la Loire, c'est aux alentours de 160 000 emplois. Là, on a fait une étude très rapide, en fait. Là, rien qu'en 2025, c'est 1500 emplois qui sont perdus, déjà. Voilà. J'ai des coups de fil d'apprentis, en fait, qui se font, entre guillemets, licenciés de la structure associative dans laquelle ils sont, parce que la structure ne peut plus les financer, puisque la région a décidé de ne plus verser de sa subvention d'aide au fonctionnement, enfin, ou d'accompagnement. Alors, c'est étonnant aussi d'entendre ça, parce que du coup, on se dit, la région, en fait, nous a dit que ses compétences à elle, c'était l'emploi et la formation. Et en fait, du coup, elle est en train de mettre à mal, en fait, l'emploi dans sa propre région, en fait. Voilà. Mais peut-être qu'elle considère que des emplois dans l'économie sociale et solidaire, dans le culturel, dans l'associatif, dans le sportif, c'est pas des emplois, c'est pas des vrais métiers, je sais pas.
Il n'y a pas que la culture qui trinque, hein, ça va bien au-delà, quoi.
Non. Voilà, ben on l'a vu là, sur les regroupements qu'il y a eu, les manifestations spontanées, mais à la fois organisées aussi. Et ben, devant l'hôtel de région, il n'y a pas que des artistes, il n'y a pas que des structures, mais il y a aussi les plannings familiaux qui sont là. Enfin, donc il y a... Et c'est bien, du coup, on est sur une lutte un peu commune. Voilà. Alors après, bon, on a beau être dans la rue, donner notre avis, nos points de vue de professionnels. Et puis, c'est le budget est voté, et puis point barre, en fait. On n'en parle plus. Alors, faut pas oublier que ça avait commencé déjà en 2023, hein, puisqu'en 2023, la région des Pays de la Loire avait décidé qu'elle n'accompagnerait plus du tout la création artistique. Donc, elle avait un budget dédié de 800 000 euros à peu près sur la création artistique, et elle est passée de 800 000 à 75 000 euros. Ce qui fait que du jour au lendemain, plus aucune équipe artistique ne pouvait prétendre à du financement pour de la création artistique. Ouais. Déjà, on entendait des arguments qui étaient un peu parfois, sur les sujets aussi, des sujets abordés par certaines créations, où on entendait dans des comités que ce sujet-là sur l'homosexualité, sur le genre, c'est quand même des choses qui gênaient, déjà.
Alors, comment ça se traduit sur la structure que tu diriges, Onyx, à Saint-Herblain ?
Donc, ça se traduit par une baisse de subvention. Voilà, tout simplement. Et puis, par effet domino, du coup, moi, je dirige un théâtre municipal, par effet domino, même si la ville de Saint-Herblain nous soutient et ne baisse pas sa dotation, mais elle ne peut pas compenser non plus la perte des subventions, ce qui fait que, l'effet domino, ceux qui vont en pâtir, et ça sera moins de spectacles, moins d'activités artistiques et culturelles au sein du théâtre, moins de propositions pour les publics. Donc, c'est ça, en fait. Voilà. Mais du coup, moi, ça me pose beaucoup de questions. Parce que là, en ce moment, je dois construire la saison 25-26. Et j'avoue ne pas savoir, en fait, par quel bout la prendre, en fait. Comment on organise un réseau solidaire avec les compagnies de la région. Mais on ne doit pas non plus s'enfermer uniquement, parce que les compagnies de la région souffrent. Il y en a certaines qui vont peut-être disparaître, en fait. Donc, comment nous, on continue à être à leur côté, les accompagner et les diffuser, en sachant qu'on a quand même beaucoup moins de moyens. Il y a des choses qui m'interrogent, mais alors est-ce que, pour les publics, en fait, quel message on peut aussi leur faire passer? Alors, ils n'ont pas toutes les données, en fait. Et on a bien vu, quand on a informé les publics sur ce qui se passait sur les coupes budgétaires, il y a des gens qui disent « Ah bon, mais c'est pas possible !» Donc, ils n'ont pas conscience, en fait, que toute cette organisation-là est le fruit d'un financement croisé, partagé. C'est toute la notion même de la décentralisation, en fait, culturelle en France. C'est la démocratisation... Et nous, on commence à leur dire, mais vous savez que là, à Saint-Herblain, en fait, vous payez votre place 5, quand on a moins de 25 ans, 5, 10, 15, 20 euros, tarif plein. Voilà, pas plus. Quels que soient les artistes qui sont invités. Parce que là, la ville de Saint-Herblain en prend une grande partie en charge, en fait. Si vous deviez payer plein pot votre place, et parce qu'on n'a pas d'aide, il n'y a pas de financement croisé, il n'y a pas de partenariat, il faut multiplier par 4 ou 5 le prix de la place. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des tarifs pleins à 80 ou 100 euros, comme au Zénith, comme dans toutes ces grosses structures. Donc là, c'est une mise à mort, en fait, du service public, tout simplement.
France Inter. Antoine Chao.
Suite au peu de considération des pouvoirs publics vis-à-vis de nos revendications.
Contre-vent.
Opération petit déjeuner, on va pas se laisser endormir. Il va bien falloir se réveiller, oui, mais si on le faisait toutes et tous ensemble. Vendredi 7 mars à 9h, devant le passage Richelieu, pyramide du Louvre. Venez avec vos draps, vos coussins, vos couettes, vos pyjamas. Difficulté de l'action, piste bleue, qui se veut festive et ludique. Banderole, chorale, tract, bienvenue. C'était sur la boucle signal. Métro Louvre, passage Richelieu, je vois quelques banderoles, la culture riposte, juste au pied de la petite pyramide.
C'est la troisième action, on va dire, pouvoir public, Il y a 15 jours, on est allé occuper la DRAC. Et on a vu le directeur de la DRAC qui nous a demandé de déposer nos revendications. Donc on a fait une sorte de plateforme revendication sur place avec les camarades qui étaient sur place, mais qui reprenaient un petit peu l'ensemble des revendications du monde de l'art et de la culture. Par exemple, sur la continuité de revenus des artistes auteuristes, mais aussi sur les coupes budgétaires qui sanctionnent une grosse partie du monde du spectacle vivant et autres. On n'a pas reçu de retour de ces revendications, du coup on est repassé la semaine dernière en leur demandant, bah, c'est bizarre quand même, on est en train de vous dire que c'est la crise, que c'est un peu la catastrophe pour nous, il n'y a aucune déclaration, aucun retour par rapport à ce qu'on vous dit. Alors, donc cette fois-ci on va au ministère, dans un des services, notamment parce que Madame Dati et le directeur de la DRAC Île-de-France ont rendez-vous peut-être dans ses locaux ou à côté.
Et donc, c'est vraiment une mobilisation suite aux annonces de coupes de budget, notamment Christelle Morancet en région Pays de la Loire.
Il y a toutes les coupes budgétaires, qu'elles soient à toutes les échelles, hein, collectivités territoriales et d'État, mais aussi les gels du pass culture. Et puis, de toute façon, on est un secteur qui est en crise avant même ces annonces. Hein, donc, on a des revendications aussi, disons, positives pour pouvoir développer un véritable service de la culture publique. Et une culture non marchande.
Tu veux donner ton nom ou pas ?
Oui, c'est Maxime Séchaud-Dedangle, ouais. Secrétaire général adjoint de la Fédé du spectacle et de l'audiovisuel, voilà, CGT.
D'accord. Ministère de la Culture, rue Croix des Petits Champs. On rentre dans le hall. Il y a une petite cinquantaine de militants.
Intermittent, avec ou sans papier, solidarité, chômeur, précaire, intermittent, avec ou sans papier, solidarité, chômeur, précaire, intermittent, avec ou sans papier.
Le drapeau du DRAP est hissé, direction régionale des affaires populaires.
Intermittent,
le drapeau rouge du DRAP. Misère de la culture, liberté, égalité, précarité. Les banderoles et drapeaux, vivre de nos métiers. Les pancartes sont distribuées.
Il y a des croissants ici.
Un violent désir de bonheur. D'attitudeur, la culture est en lutte. La force de la culture face à la culture de la force.
Bonjour, on est venu prendre le petit déjeuner au sein de notre ministère parce que nous sommes les travailleuses de l'art et de la culture actuellement mobilisées depuis des semaines. On est passé il y a 15 jours pour déposer une liste de revendications. On est repassé la semaine dernière pour avoir des nouvelles de cette liste de revendications. On a obtenu un rendez-vous au ministère lundi dernier, mais malgré la crise, malgré le fait qu'on soit mobilisés partout en France, aucune réaction, aucune considération, aucune réponse à nos revendications. Alors ce matin, nous sommes une délégation qui représentons l'ensemble du secteur de l'art et de la culture mobilisé actuellement en France et on aimerait avoir des réponses concernant nos revendications. Merci.
Rachida, on est là. 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 Rachida, on est là.
Rachida, Dati, on est France.
Oui, allô. Bonjour.
Okay. Bonjour.
Bonjour.
C'est...
Voilà, vous êtes...
Oui, parce que vous êtes en haut-parleur, il y a toute l'assemblée qui vous écoute.
Alors, vous êtes une délégation aux bons enfants, c'est ça ?
Oui, exactement.
Et donc, quel est l'objet de votre venue ?
Bah, c'est toujours les mêmes. On vous a prévenu, monsieur Morel, lundi, hein, que tant qu'il n'y avait pas de déclaration forte du ministère, une considération de nos revendications, on serait là partout et on ne va pas vous lâcher. Hein. Il y a en ce moment un rapport de force qui est en cours, il va falloir que vous en ayez conscience, d'accord, que ce dialogue s'inscrit dans le cadre d'une lutte sociale aujourd'hui.
Mais c'est pas le sujet, monsieur Séchaud, de nous lâcher ou pas, on est très pragmatique, nous, oui. De notre côté.
Oui, parce que nous on l'est aussi beaucoup, hein, vous savez.
Oui, bah très bien,
c'est très pragmatique de vous dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont plus en mesure de vivre de leur métier, qui sont en extrême difficulté. Et ça, c'est du pragmatisme et ça, c'est la réalité. Donc maintenant, ce matin, on le sait, à 9h30, Madame Dati avait rendez-vous avec Monsieur Roturier. Il y avait toute logique à ce qu'on soit là, puisqu'on avait déjà obtenu un rendez-vous avec Monsieur Roturier, qui vienne nous voir.
Que Madame Dati vienne.
Qu'elle vienne nous voir.
Madame Dati ne va pas venir vous voir ce matin compte tenu de son agenda. En revanche,
elle est à 5 minutes. En rendez-vous avec la DRAC quand il y a un secteur en crise, elle ne vient pas voir les travailleuses qui sont en pleine revendication, mais on a déjà vu ça dans cette histoire. Bon, on va couper la communication, en fait, je pense, je suis désolé, vous êtes d'accord. Je pense que vous êtes vraiment pas à la mesure des enjeux. Et là, vous êtes en haut-parleur devant une assemblée en délire, alors...
Face à une administration visiblement amorphe, et en l'absence de garantie, nous avons décidé de revenir pour discuter avec Madame Dati, qui s'entretient en ce moment même avec une vieille connaissance, Laurent Roturier. Nous avons toujours une belle liste de revendications qui mérite son attention.
L'organisation de conférences régionales de refinancement des secteurs culturels, le maintien du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, Fonds PEPS, après 2025, le retrait sans condition de la réforme de l'audiovisuel public et la création d'une instance ministérielle pour accélérer l'entrée des artistes, auteurs, autrices dans l'assurance chômage. La proposition de loi sur la continuité de revenus.
La mobilisation des secteurs culturels s'amplifie depuis plus d'un mois avec des AG et des actions dans de nombreuses villes en France. Nous appelons toutes et tous... donc tous nos collègues, tous nos camarades, à construire le rapport de force jusqu'à la victoire. Rejoignons-nous à partir du 17 mars pour une semaine d'action et le 20 mars pour une grève générale de nos secteurs et une manifestation intersyndicale et unitaire.
Nous rappelons encore une fois que nos revendications s'inscrivent dans le cadre d'un projet de société démocratique et solidaire et qu'en aucun cas la culture ne doit servir de prétexte au racisme d'État et à l'expulsion des mineurs isolés qui occupent depuis plusieurs mois des lieux culturels comme la Gaîté Lyrique pour défendre leur droit au logement et à une vie digne. Nous refusons d'être instrumentalisés et soutenons leur lutte.
Comment on sort de la sidération? Parce que là, au-delà des coupes budgétaires, derrière, on ne va pas se mentir, il y a une idéologie de droite qui est partout et qu'on entend aussi hein, de l'autre côté de l'océan, fasciste, qui va à l'encontre, en tout cas, des acteurs de la culture et même, je dirais, du sens même de nos humanités. Je rappelle quand même pour tous ceux qui nous écoutent que depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours entouré de signes et de symboles pour comprendre le monde qui l'entourait. On peut citer l'art pariétal, par exemple, les premiers rituels présocratiques, les mystères d'Eleusis, le Eudasie dont parlait Nietzsche en parlant du nous japonais, et bien avant ça, il y a eu encore beaucoup de choses. Donc on sait que c'est ce qui nous distingue, c'est la seule chose qui nous distinguerait a priori de l'animal, c'est notre dimension métaphysique, c'est-à-dire notre capacité à faire signe ailleurs.
Merci à Nadège Prugnard, directrice du Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public de Villeurbanne, à Gaëlle Lecareux de l'ONIX à Saint-Herblain, Élie Comins du Lieu Unique à Nantes, au collectif Riposte Culture et tous les manifestants, activistes, artistes précaires en colère des Pays de la Loire. Et d'ailleurs, on lâche rien et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec Charlotte Perry.